C'est un podcast Vivre FM.
Le 28 août 2024, Paris sera la capitale du monde. Tous les athlètes seront réunis pour les Jeux Paralympiques. Et ça, ce sera la fête.
Tu aimerais faire la fête. Ta mère veut te la faire aussi. La fête. Je voudrais te faire la fête. Tout le monde te fera aussi la fête.
Et pour que la fête soit belle, faisons la fête à nos athlètes en situation de handicap. Ils vont porter haut et fort les couleurs de la France. Vous ne les connaissez pas assez et pourtant, je vous propose de les découvrir, de les aimer, de les suivre, de les encourager. Nos para-athlètes sont notre fierté.
Vous écoutez Objectif Paris 2024. Découvrez nos athlètes paralympiques avec Jason Jobert.
Et on aime déjà Zoé Maras. Elle est avec moi et c'est une joueuse de para-tennis. Elle a le sourire là en ce début de saison. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Alors Zoé, vous jouez au para-tennis depuis combien de temps ?
Alors ça fait maintenant 8 ans que je fais du para-tennis. J'ai commencé quand j'avais 13 ans, donc j'ai commencé très jeune. Au début, j'en faisais en loisir un petit peu après les cours, parce que j'ai jamais eu d'aménagement, donc je faisais après les cours, après le lycée. Et après, j'ai commencé, ça fait à peu près 5 ans que je fais de la compétition. Donc vraiment, je fais de la compétition de haut niveau. Je suis actuellement numéro 4 française et 31e mondiale. Et j'ai eu la chance cette année là, d'intégrer le Pôle France à Paris, au CNE. Donc c'est une chance pour moi, parce que c'est vraiment le temple du tennis, c'est là où il y a les meilleurs joueurs valides qui s'entraînent. Donc on a de la chance d'avoir cette structure-là de haut niveau avec toutes les infrastructures du CNE, c'est énorme. Et donc voilà, c'est là où je m'entraîne et c'est là où j'espère pouvoir progresser et pouvoir en 2024 participer aux Jeux de Paris.
On va faire plus ample connaissance. Tu es donc en situation de handicap puisque tu es en fauteuil. Depuis l'âge de 3 ans, je crois, c'est ça, tu as une maladie ?
Alors c'est ça, j'ai une tumeur à la moelle épinière à l'âge de mes 3 ans. Donc j'ai dû me faire opérer et suite à l'opération, je suis finie paraplégique. Donc aucune sensibilité des jambes. Donc ouais, ça m'est arrivé très jeune. Donc je l'ai plutôt bien vécu parce que j'ai une famille qui est, mes parents, ils m'ont pas laissé, enfin ils m'ont toujours poussée à être autonome et elles le vivent bien. Ils n'ont pas baissé les bras, au contraire, ils m'ont toujours donné la force de bien le vivre et toujours le sourire. Donc c'est comme ça que j'ai été éduquée dans la famille, entourée de mon frère et de ma sœur en plus. Donc quand on est entouré comme ça, j'ai eu la chance d'être entourée, donc de bien le vivre. Et voilà, vraiment pour moi, j'ai toujours grandi avec ce handicap. Et pour moi, ce handicap aujourd'hui, c'est ma force parce que c'est comme ça que je me suis créé aussi un mental de pas baisser les bras, de toujours garder le sourire, peu importe ce qui t'arrive. Et voilà, aujourd'hui, mon handicap, c'est vraiment ma force dans la vie de tous les jours.
Alors, c'est vrai que tu as le sourire, hein, je confirme. Tu as grandi où et est-ce que tu as des frères et sœurs ?
Alors, j'ai grandi à côté de Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Lyon. Donc, c'est là où j'ai été jusqu'au lycée. Parce que du coup, j'ai fait un lycée normal, donc un bac général là-bas. Et après le lycée, je suis partie à Annecy pour mes études, en sport-études, dans un DUT mesures physiques. Où j'ai fait en section sport, donc j'avais cours le matin et je m'entraînais l'après-midi là-bas à Annecy. Et donc après, je suis venue ici à Paris. Et oui, j'ai la chance d'être entourée dans ma famille. J'ai un grand frère de 25 ans. Il est en train d'ouvrir sa boulangerie là, donc je suis hyper fière de lui, près de chez mes parents. Et j'ai une petite sœur qui a 18 et qui est en école d'éducatrice spécialisée, pardon. Et voilà, je suis hyper fière d'elle aussi. Et voilà, je suis vraiment bien entourée dans ma famille. Et voilà, j'ai des parents aussi qui me poussent toujours à me faire du sport et à me dépenser. Ils sont hyper fiers de moi, donc ça me motive.
Est-ce que tu es une famille de sportifs ? Parce que tu t'es mis au sport très jeune, du coup ?
Alors ouais, pas du tout. Je suis pas du tout dans une famille de sportifs. Mon frère a fait du foot petit. Jusqu'à qu'il travaille, où maintenant son travail de boulanger ne lui laisse moins de temps de faire du foot. Mais mon frère a beaucoup fait du foot et ma sœur, elle n'est plus du tout sportive. Elle est plus dans la mode, dans le maquillage que dans le sport. Donc non, ouais, c'est vrai que mes parents... Mais après, moi, j'étais beaucoup énergétique petite. C'est vrai que sur mon fauteuil, j'étais toujours en train de bouger. Et donc mes parents, ils m'ont fait d'abord découvrir la natation. J'ai d'abord nagé, en fait. Donc j'ai appris à nager très jeune. Je crois qu'à 8-9 ans, j'apprenais à nager. Et donc du coup, j'ai fait 3-4 ans de natation, où j'ai fait des compétitions en France, mais j'aimais pas trop ce sport, parce que je préférais être sur mon fauteuil, vraiment, pour moi c'était important de faire un sport où je puisse montrer mon fauteuil, parce que pour moi mon fauteuil ça fait partie de moi, et donc c'était vraiment, vraiment important pour moi de faire un sport en fauteuil, et en fait c'est sur un hasard, parce qu'il y avait une démonstration de para-tennis, donc sur un parking de supermarché, vraiment une situation vraiment... enfin par hasard quoi, et j'ai pu essayer et le lendemain j'ai pu partir en stage junior en France. Et donc c'est là où j'ai découvert le tennis fauteuil et depuis bah, j'ai plus jamais lâché la raquette.
Il y a chez toi un esprit de compétitrice depuis le plus jeune âge, ça vient d'où cette force?
Je pense que ça vient du handicap déjà. Je pense que les personnes en situation de handicap ont un esprit de combativité, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas abattre par le handicap et forcément ça crée ce côté-là. Après, ouais, c'est que j'ai toujours été combativite. Enfin, j'aime bien la compétition, j'aime bien toujours me surpasser. Je pense que dans le sport, c'est là où je me surpasse encore plus que dans la vie de tous les jours. Même dans la vie de tous les jours, j'aime me surpasser. J'aime quand on ne me sent pas capable de faire quelque chose, j'aime le prouver que je suis capable de le faire. C'est-à-dire que voilà, j'ai passé le permis, depuis mes 18 ans, j'ai mon appartement où je vis seule, où je suis 100% autonome. Et ça, vraiment, j'en suis hyper fière parce que je sais que c'est grâce à mes parents que j'ai pu faire tout ça. Parce que c'est grâce à l'éducation qu'ils m'ont donné aussi le fait de toujours pousser à me débrouiller toute seule, finalement. Et je suis hyper fière, ouais. Dans ma vie de tous les jours, j'essaye de me surpasser le plus possible. Et dans le sport, avec la compétition, les entraînements aussi qui poussent à chaque entraînement de faire mieux que le lendemain et encore mieux que le demain, quoi. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est depuis que je suis petite, je suis comme ça. Et le handicap, ça a encore plus poussé ce côté-là de moi.
Le tennis a une part très importante dans ta vie. Comment tu as fait au début pour servir, envoyer la balle de l'autre côté et tu as eu un moniteur, j'imagine, qui t'a boosté également avant d'arriver ici aujourd'hui?
Oui, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec pas mal d'entraîneurs, parce que j'ai beaucoup changé depuis, parce que je me suis pas mal déplacée avec mes études. Donc j'ai commencé avec Nicolas Champalier, donc dans ma ville, à Genilac. Et où j'ai commencé, où je m'entraînais de temps en temps en loisir avec lui. Et c'est lui qui m'a donné le goût vraiment du tennis. Il m'a appris, voilà, le début en fait, ça partait de lui, quoi. Il m'a appris à tenir une balle, à servir, à faire des échanges. Puis après, au lycée, j'ai pas mal changé de club. Et quand je suis partie à Annecy aussi, j'ai eu la chance de m'entraîner au club des Marquillas avec Nicole, une entraîneuse qui m'a beaucoup aussi apporté, qui m'a fait beaucoup progresser aussi. Parce que j'étais à peu près 80e mondiale quand je suis arrivée au club. Et je suis passée dans le top 50 quand je suis partie. Donc vraiment, elle m'a apporté beaucoup. Après, j'ai eu Camille aussi à Mâcon qui m'a beaucoup apporté. En fait, chaque entraîneur t'apporte quelque chose et te font progresser. Et c'est grâce à eux aujourd'hui que j'en suis là aussi. Et puis là, avec Claire, j'ai la chance d'avoir Claire Colson en entraîneuse au Pôle de France, au CNE. Et je sens, là, ça fait 2 mois que j'y suis, je sens qu'elle m'a beaucoup apporté aussi. J'ai beaucoup progressé en 2 mois. Et donc, ouais, c'est que chaque entraîneur amène quelque chose dans ton tennis et te font progresser. Et donc, c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être à ce niveau-là.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Pôle France, ce que tu y fais au quotidien et justement tes attentes par rapport à la suite de ta carrière?
Oui, alors le Pôle France a été créé en janvier, donc là c'est la première fois que le Pôle France a été créé, donc c'est tout nouveau. Et ouais, j'ai cette chance-là de pouvoir l'intégrer en tant que joueur. Donc le Pôle France, en fait, c'est un lieu où on peut s'entraîner tous les meilleurs joueurs para-tennis. Donc on s'entraîne ici, là, dans ces infrastructures, avec on a à peu près 4-5 heures de tennis dans la journée. Après, on a à peu près 2 heures de physique. Et on a souvent 1 heure de cours de media training. Donc c'est vraiment les journées types. Après, ça dépend aussi des tournois, les préparations de tournois. Et donc ouais, vraiment, on a la chance de bénéficier, comme je le disais, des structures, des valides aussi, des meilleurs joueurs valides qui s'entraînent ici. Donc on a la chance d'avoir des magnifiques terrains, même dans la salle de muscu, il y a beaucoup, beaucoup de machines. Et donc, ouais, vraiment, pour moi, c'est un tremplin dans le tennis d'être ici. C'est vraiment, quand on m'a proposé ce Pôle France, j'ai hésité parce que voilà, il y a ma famille et tout que je laisse un peu en venant à Paris. Mais au niveau tennis, vraiment, j'ai pas hésité une seule seconde. Franchement, c'est une chance en tant que joueur tennis de m'entraîner ici. Et ce que j'espère d'ici, bah, je le sens déjà en 2 mois que j'ai pas mal progressé. J'espère encore plus progresser les prochains mois. Et voilà, m'entraîner comme je le fais tous les jours et pouvoir monter dans ce classement mondial pour pouvoir après, j'espère, me qualifier pour les Jeux de Paris 2024.
J'ai lu sur Internet que tu avais perdu un match contre Charlotte il y a quelques mois ou quelques années. Et aller dans le groupe, là, avec toi, ça fait quoi de se challenger à plusieurs et d'essayer d'être la meilleure?
Ouais, c'est vrai que c'est cool parce qu'on est deux. Du coup, ça permet aussi à l'entraînement d'avoir une joueuse qui est mieux classée que moi. Donc, c'est vraiment, ça me permet de me challenger tout et puis de pouvoir jouer ces joueuses-là et de pouvoir progresser. Je pense qu'on le sent depuis le début janvier qu'elle et moi, on se pousse vers le haut et on se fait progresser toutes les deux. Donc, c'est super. Ça nous permet de matcher aussi. et puis faire des matchs tous les après-midi, parce que c'est hyper important de matcher pour se mettre dans la compétition et dans la bulle du match, parce qu'on ne joue pas de la même manière au match à l'entraînement. Donc ça nous permet de nous pousser vers le haut l'une comme l'autre, et je sens que Charlotte m'apporte beaucoup, comme je l'espère, je lui apporte, et ça nous fera progresser l'une et l'autre.
Alors, c'est quoi le profil de la joueuse Zoé Maras ? Ses points forts, ses points faibles, et là où on va pouvoir la retrouver également cette année en compétition ?
Alors, je pense que je suis une joueuse qui a pas mal de puissance, déjà dans la frappe. C'est que j'ai des frappes qui peuvent être assez puissantes et ça peut être mon point fort. Je sais que ma puissance peut faire mal à mes adversaires. Mon point fort aussi, c'est que je peux bien rouler. Alors, ça peut être mon point faible aussi, parce que de temps en temps, je suis un peu fainéante. Mais souvent, c'est mon point fort, normalement, le ruling. Après, mon point faible, je dirais la régularité. C'est-à-dire que quand je veux trop en faire et trop en mettre, je peux faire beaucoup de fautes. Enfin, plus de fautes. Du coup, je dirais que c'est mes points faibles. Et mon point faible, je dirais mon service aussi, que je travaille beaucoup en ce moment pour que ça devienne mon point fort. Et où on peut me retrouver, là, je vais partir au mois de mars, la fin mars, en tournée en Turquie. Donc, je vais faire deux tournois en Turquie en avril aussi. Et voilà, c'est les prochaines échéances là à venir, et j'espère faire des bons matchs là-bas.
Nous sommes situés à deux pas de Roland-Garros. Ça t'évoque quoi, justement, ce grand tournoi des internationaux de France ?
Roland-Garros, je pense que ça fait rêver tout sport, tout tennisman. Franchement, Roland-Garros s'entraîner à deux pas de Roland, tu le vois. Quand je viens ici au CNE, je passe devant, donc forcément, ça fait rêver. C'est vrai qu'en paratennis, il n'y a pas un grand tableau à Roland-Garros, c'est que les 12 meilleurs mondiaux qui y participent. Donc c'est vraiment un petit tableau. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'y accéder, mais j'espère pouvoir un jour jouer sur les terres de Roland-Garros. C'est vraiment, c'est un rêve en tant que Français, en plus de jouer un grand chelem en France. Et j'espère, en plus, s'entraîner à côté, c'est encore plus motivant. Donc, j'espère pouvoir un jour y accéder.
Tu disais tout à l'heure qu'ici, au CNE, tu avais des cours de média training. Ça se ressent, tu es très à l'aise face au micro. J'irais même s'il y avait une caméra que c'était le cas. C'est important pour toi d'avoir, certes, l'activité sportive, mais également tout le reste à côté qui est instruit d'une manière générale.
Oui, je trouve que c'est super important de faire des cours de média training, parce qu'on est amené justement de plus en plus à parler du paratennis. Donc voilà, quand il faut parler du paratennis, il faut bien s'exprimer aussi, c'est important. Après, à l'aise, de plus en plus, justement, ces cours m'aident à être à l'aise. Mais c'est vrai que je suis très timide, donc c'est toujours très compliqué de parler. Mais ces cours m'aident beaucoup. Et voilà, on va être amené, je l'espère, à montrer plus de paratennis, à faire parler de ce sport. Et donc, j'espère, c'est important d'en parler, quoi.
Quelles sont les joueuses de tennis qui t'ont inspirée ou qui t'inspirent à l'heure actuelle ?
En valide, Garcia, en vrai. Garcia, là, elle est en train de faire une saison incroyable. Elle est incroyable sur le terrain et franchement, elle m'inspire beaucoup. Son jeu, il est ouf. Donc, c'est vraiment une joueuse qui m'inspire beaucoup. Après, chez les garçons, Nadal. Nadal, je suis un peu fan de lui depuis que je suis petite. Franchement, son côté humble sur le terrain, déterminé et qui lâche rien, c'est vraiment une mentalité que j'aime beaucoup et que je me retrouve un peu, j'espère, être comme lui sur le terrain tout en restant humble en dehors des courses. C'est hyper important et vraiment, Nadal, c'est un des joueurs que je préfère.
Alors, on est à deux pas de Roland-Garros, comme je le disais. Est-ce qu'en fauteuil, on peut jouer sur plusieurs surfaces ?
Alors oui, en fauteuil, on peut jouer sur toutes les surfaces. Voilà, on est amené à jouer sur du dur, comme à l'intérieur du CNE, comme de la terre, comme de l'herbe en Angleterre. Après, en été, souvent, il y a beaucoup de tournois sur terre. Comme là, je reviens d'un tournoi au Maroc sur terre battue. Je repars en Turquie, c'est sur terre battue aussi. La terre, c'est complètement différent. Ce n'est pas du tout le même jeu en fait, que sur dur. Donc, ça se travaille aussi en vrai. Au début, je n'aimais pas du tout la terre. Et maintenant, je suis amenée à comprendre un peu comment jouer sur terre. Et donc, à de plus en plus aimer la terre. Mais ça freine un peu le fauteuil quand même. Donc, en déplacement, c'est beaucoup plus dur de jouer sur terre. Mais en termes de jeu, j'adore parce que ça change tout le jeu en fait. Voilà, on peut faire des chopes, des balles rasantes qui s'écrasent sur la terre. Et non, franchement, sur terre, c'est vraiment top.
Paris 2024 approche. Est-ce que tu vas profiter d'événements ? Est-ce que tu t'intéresses à d'autres sports ?
Oui, c'est que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport en général. C'est que je m'intéresse, c'est-à-dire que je peux regarder un peu tout sport. Et il y a un sport, le basket fauteuil. C'est que j'aime bien suivre les résultats du basket fauteuil. J'en ai fait un peu en loisir quand j'étais au lycée, mais juste pour le plaisir. Et c'est vrai que c'est un sport que j'aime beaucoup regarder. Même des fois, quand je suis le week-end, quand il y a un match de haut niveau en basket fauteuil, j'aime bien aller voir parce que je trouve que c'est impressionnant à voir. Mais c'est vrai que je m'intéresse à tout sport, même si voilà, le tennis est le sport que je préfère. Mais je suis quelqu'un qui est hyper curieuse et qui est hyper... j'aime bien découvrir tous les sports et regarder un peu tous les sports et comprendre. Donc j'aime beaucoup, oui.
Tu as toujours le sourire et tu es très positive, mais j'imagine que lorsque tu perds un match, tu dois être mécontente après toi en premier. Comment tu réussis à vaincre une rage éventuelle ou une déception et comment tu puises une force pour recommencer le lendemain, être sur le terrain ?
Ouais, c'est qu'au tennis, on est amené à plus perdre que gagner finalement. Et donc c'est compliqué à gérer, c'est qu'il y a beaucoup de tournois où même le tennis, c'est un sport qui est beaucoup sur le mental en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un sport où quand on joue le haut niveau, finalement, on sait tous jouer au tennis. Et là où ça joue le plus, c'est vraiment dans la tête. Et donc je travaille dessus avec un coach, un préparateur mental aussi. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui gérait absolument pas mes émotions. Sur un terrain, j'étais tétanisée. Face à n'importe quel adversaire, vraiment, j'avais un stress qui m'empêchait de jouer, qui m'empêchait de rouler, qui m'empêchait de tout faire sur le terrain. Et donc là, le fait de beaucoup matcher aussi, le fait de m'entraîner plus, d'avoir plus confiance en moi, le fait de faire pas mal de tournois, je commence à beaucoup mieux gérer mon stress, et grâce à mon préparateur mental aussi, qui fait que je joue de mieux en mieux en match. Et donc ça, c'est déjà c'est énorme. Et après, comment gérer la défaite ? Comme je l'ai dit, on perd plus qu'on gagne dans le tennis. Donc voilà, il faut penser à ce qu'on doit travailler après, ce qui n'a pas été dans le match, pour justement mettre le positif. Même d'une défaite, il y a du positif, en fait. Et donc, il faut réussir à prendre ce positif de la défaite et de s'en servir, justement, pour progresser après. Mais je dis ça comme ça, mais c'est très compliqué parce que quand on perd, on est tellement déçu que voilà, faut passer à autre chose très vite parce que on va retourner à l'entraînement le lendemain et repartir sur une compétition quelques jours après quoi.
Tu nous disais tout à l'heure qu'ici au CNE, les journées sont plutôt bien chargées. Il y a l'entraînement physique et musculaire. Tu fais quoi comme exercice en particulier, par exemple ?
Alors en physique, je fais tout. En fait. Tout le haut du corps, donc tout ce qui est épaules, biceps, triceps, je peux le faire. Alors moi, mon handicap, c'est que j'ai pas d'abdos en fait, donc que je suis para haut, c'est-à-dire que je peux pas bouger mes abdos. Donc tout ce qui est bas du corps, tout ce qui est abdos, c'est un peu compliqué. Mais j'essaie quand même de travailler le gainage quand même parce que le peu d'abdos que j'ai, les utiliser quand même, c'est important. Et puis après, qu'est-ce que je fais en physique ? Il y a du vélo à main aussi que je fais beaucoup. Donc ça, c'est pas mal pour le cardio, pour l'échauffement. Et puis après, ça change des jeux avec des ballons pour échauffement aussi. Élastique, beaucoup d'élastique pour mobiliser les épaules. Et puis après, je fais aussi beaucoup à la fin d'étirement. À la fin d'une journée, c'est important de s'étirer et de relâcher les muscles. Donc ce qu'on fait beaucoup aussi en fin de journée. Et voilà, après, la journée est chargée. Mais c'est cool aussi d'avoir des journées chargées parce que t'as pas le temps de te reposer, finalement, t'enchaînes et ça passe hyper vite.
On voit parfois des joueurs ou des joueuses qui ont une ceinture quand ils sont en situation de handicap. Je crois que c'est ton cas. C'est la particularité, ça maintient le corps, c'est ça, pour le jeu ?
C'est ça. En fait, chaque fauteuil est un peu fait par rapport à ton handicap. En fait, tu verras jamais un fauteuil de la même manière. C'est-à-dire que vraiment, chaque fauteuil est fait pour le joueur. Tu peux pas, à haut niveau, prendre le fauteuil d'un joueur et te mettre dans ce fauteuil-là parce qu'il ne tira pas du tout par rapport à ton handicap. Donc oui, moi, mon fauteuil, vu que je suis para-haut, donc en fait, je suis assez basse sur le fauteuil et j'ai une ceinture qui me tient le ventre parce que je ne peux pas me pencher et me relever toute seule. Vu que je n'ai pas d'abdos. Donc, il me faut absolument une ceinture qui me tient au niveau des abdos. Et sinon, voilà, c'est la particularité de mon handicap.
Est-ce que tu as déjà envisagé de rencontrer des enfants et parler du para-tennis ? Parce que tu t'exprimes très, très bien en la matière. Pour faire passer un message, justement, intéressez-vous au tennis, quel qu'il soit, en quelque sorte ?
Oui, c'est ça. Alors, j'ai eu la chance cette année, il y a la mairie d'une ville à côté de chez moi, la mairie de Rive-de-Gé, qui m'aide financièrement et qui me sponsorise. Et donc, moi, je vais dans les écoles, en fait, de la ville pour faire des démos et pour faire des interventions, des sensibilisations auprès des écoles. Donc, j'ai eu la chance d'intervenir dans des MJC là-bas, aller dans des écoles. Et franchement, j'adore répondre aux enfants qui sont des enfants. C'est tellement des questions sans filtre qu'ils posent. Et je trouve que c'est tellement beau de voir des enfants s'intéresser au handicap. Et je trouve ça tellement important de sensibiliser parce que ben voilà, ils vont sûrement croiser dans leur vie des personnes en situation de handicap une fois dans leur vie et qui connaissent aussi, qui se rendent compte que bah finalement, même en situation de handicap, tu peux réussir à en vivre, à être heureux, à être épanoui dans ta vie. Je trouve que c'est un hyper beau message. Tu sais que même dans les tournois, dès qu'il y a des enfants, parce que souvent il y a des enfants qui peuvent venir dans les tournois regarder les matchs, et souvent ils me proposent aux joueurs d'intervenir avec les enfants dès qu'ils ont fini leur match, entre deux matchs. Et je trouve que c'est une super bonne idée de faire venir les enfants dans les tournois comme ça, parce que juste pour qu'ils se rendent compte que voilà, même avec un handicap, comme je l'ai dit, c'est possible et que tout est possible et que voilà, peu importe ce qui peut t'arriver, bah tu peux être heureux en ayant un handicap.
On va gommer le côté handicap, valide, invalide. Tu fais aujourd'hui partie de la Team France, de l'équipe France. Et puis, ça, tu t'en rends compte très concrètement en étant ici au CNE. Ça te fait quoi ? Quelle émotion passe dans ta tête, dans ton corps, en se disant « ouais, c'est les couleurs bleu, blanc, rouge de la France ».
Oui, je suis hyper fière. Je suis hyper fière d'être là, honnêtement. C'est vrai, je représente l'équipe de France. Quand je pars en tournoi, c'est vrai que je représente l'équipe de France. Il y a une fierté énorme. J'ai eu la chance de partir en Coupe du Monde il y a 2 années. Et vraiment, c'était un de mes meilleurs souvenirs. Vraiment, de porter les maillots de l'équipe de France et de jouer pour la France, c'est vraiment des souvenirs qui restent gravés. Et voilà, j'espère cette année pouvoir partir en Coupe du Monde si je suis prise et de pouvoir représenter encore les couleurs de la France.
Alors Roland Garros s'approche. Est-ce que tu vas y aller voir des matchs valides ou en situation de handicap en fauteuil ?
Oui. Bah là, en plus, j'habite maintenant à Paris, donc je suis vraiment à côté. Donc oui, j'espère pouvoir y aller pour regarder les matchs et voir des beaux matchs, quoi, en match valide ou en paratennis.
En tant que joueuse, aujourd'hui, les sportifs sont de plus en plus sensibles, je dirais, à tout l'environnement et à l'écologie. Est-ce que toi, c'est une de tes préoccupations en tant que jeune femme de 21 ans, de notre monde qui est de plus en plus fragile aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est important de faire attention à la Terre, peu importe l'âge et peu importe l'endroit. Après, j'essaye de faire attention, bien sûr, avec les petits détails de tous les jours. Voilà, de moins prendre la voiture, de séparer les déchets dans les poubelles, que des choses comme ça. Après, je voyage beaucoup aussi, donc c'est que je suis moins en France et je peux moins faire attention à ça. Je pense que c'est important de tous faire attention un petit peu, chacun de notre côté, et faire attention parce que c'est là, faire attention à la planète, je pense que c'est primordial parce que c'est là où on vit. Donc oui, j'essaye d'y faire attention, je suis pas exemplaire du tout, mais j'essaye dans ma vie de tous les jours, du haut de mes 21 ans, de faire attention à l'écologie.
Et on arrive à la fin de cet entretien, on te connaît mieux. 2 questions. La première, pour te suivre, t'encourager sur les réseaux sociaux, on te trouve comment et sur quel réseau ?
Alors, j'ai une association qui s'appelle Les Supporters de Zoé. Et donc, mon papa, il a créé une page Instagram, donc Les Supporters de Zoé, où c'est lui qui gère plus le Facebook de cette page. Et donc là, vous pouvez voir mes résultats. Et j'ai aussi une page Instagram, donc c'est Zoé Paratennis. Et c'est là, c'est moi qui la gère celle-ci et je mets plein de stories quand je pars en tournoi. Donc c'est cool si vous venez me suivre sur cette page Instagram aussi. Et je mets mes résultats, bien sûr, des tournois et tout ça. Toute ma vie au CNE aussi, les entraînements, donc je mets sur cette page Instagram.
On va te suivre, on va te liker. Et une chanson pour finir qui t'inspire, qui te donne envie ou qui peut t'émouvoir tout simplement.
Oui. Alors, il y a beaucoup de musique qui m'émue parce que je suis très sensible, mais il y a une musique qui me vient à l'esprit, c'est Soprano Roule. C'est une musique qui parle d'une maladie aussi, qui perd quelqu'un de sa famille avec une maladie. Et c'est une musique qui me touche beaucoup parce que forcément, j'ai eu une maladie petite, donc c'est vrai que ça peut atteindre une famille entière. Et c'est une musique que je trouve bouleversante et qu'on a beaucoup écouté avec mes parents et avec ma sœur quand on était petite. Donc c'est une musique qui me rappelle beaucoup de souvenirs aussi. Donc je dirais cette musique-là de Soprano Roule.
Eh ben merci Zoé Maras, on retient ton nom et on va rouler ensemble et on va finir justement en écoutant cette chanson. Merci Zoé.
Merci beaucoup.
Donc je roule, 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 roule dans les rues de ma ville. Larme à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde avec des si. Oui, je roule, roule.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.